Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Denis, à Lyon, la nuit, fait souvent des cauchemars. Il voit son père recevoir une lettre où Denis est jeté dans les égouts par des hommes en noir. Ça le réveille en sueur. Et durant toute la journée, il se pose des questions pour savoir ce qui lui est arrivé. Il en parle à sa copine. Elle lui dit « N'y pense plus, c'est fini. » Il lui répond « Mais j'aimerais savoir ce qui m'est arrivé. L'on m'a questionné, c'est bien pour quelque chose. » Elle lui dit « Peut-être pour de l'argent, une rançon. » À Paris, Nicolas aime bien fureter chez bouquiniste.
Entre dans des vieilles boutiques sombres,
remplies de livres jusqu'au plafond, de vieux livres de toute époque. Un après-midi, il est dans une de ces boutiques, trouve, en cherchant, un livre édité dans les années 50. Voit que c'est un tout jeune écrivain qui l'a écrit. Un écrivain de 17 ans. Intrigué, il feuillette le livre. Le feuillette au hasard. un petit homme maigre, à cheveux et barbe grise, habillé d'une blouse grise, va vers lui. Il lui demande « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?»«
Pas spécialement, mais j'ai trouvé ce livre. »
« J'ai jamais entendu le nom de cet écrivain, ni de ce livre. »«
Vous ne pouvez pas tout connaître, monsieur. Il y a tant de livres. Montez-moi celui-là. »
Nicolas le lui montre.
« Ah oui, vous avez raison. C'est bien un livre rare. En réalité, je ne devrais pas l'avoir à la vente, parce que le livre a été interdit par la censure. »«
Et pourquoi ?»«
Parce que le sujet est trouvé... trop immoral.
Ça parle de quoi ?
Le livre raconte une histoire d'amour fou entre deux garçons. Ce livre est unique et inclassable. Il est ni, ou plutôt, il ne dit jamais homosexuel. Ou il dit, c'est tout. C'est d'une force, d'une fougue.
J'aimerais acheter ce livre.
C'est-à-dire,
puisqu'il est dans votre magasin, je peux le prendre.
C'est-à-dire qu'il est interdit.
C'est pas marqué sur la couverture. Vous ne pouvez pas le savoir.
Monsieur, j'ai besoin de ce livre. Je veux le livre.
Bien, monsieur, mais ne le mettez pas entre toutes les mains.
Je vous le promets. L'homme tend le livre à Nicolas.
Tenez.
Je vous dois combien, monsieur ?
Disons, le prix d'un livre de poche.
Classique, 1 franc. Nicolas le lui donne et sort de la boutique.
Arrivé chez lui, il se met au salon, assis dans un fauteuil, lit le livre. 3 heures plus tard, il est fini. Il est époustouflé.
J'ai jamais lu une chose aussi forte et belle. Il faut absolument que j'en fasse un film.
Il regarde le nom de l'éditeur et malheureusement, au bas de la page 2, la loi de 1957, etc., etc. Il téléphone à l'éditeur.
L'éditeur lui dit « Venez me voir avec ce livre. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Venez demain matin à 10h30.
Bien, j'y serai. Au revoir, monsieur. »
Nicolas, le lendemain matin, va avec le livre aux éditions MRF, qui se trouve dans un immeuble rue Vendôme. Au fond d'une cour d'un immeuble bourgeois se trouve un autre immeuble, et c'est au 2e étage. La maison d'édition, c'est simplement un appartement transformé en bureau.
Sonne à la porte. Il ouvre, une petite jeune fille blonde, à jupe écossaise à demi-lente rouge et coiffée à la Sheila.
Je suis Nicolas Scraff. J'ai rendez-vous avec monsieur André.
Entrez, monsieur.
Venez me suivre. Suivez un petit couloir clair, blanc. Elle frappe à une porte. Entrez. Elle ouvre la porte et dit « Monsieur Scraff !» Elle laisse passer Nicolas. Assis à un bureau, monsieur André, de taille moyenne, visage osseux, cheveux gris, lunettes, monture métallique, habillé d'un costume gris,
La pièce est vaste. Il y a des piles de livres sur le bureau.
Asseyez-vous, monsieur Scraff.
Nicolas s'assoit en face sur une chaise.
Vous avez apporté ce livre ?
Nicolas le lui tend. Monsieur André le regarde. Et lui dit :
C'est un vieux livre. Et qu'est-ce que vous voulez en faire au juste ?
J'ai follement envie d'en faire un film de cette histoire.
Ce serait difficile, parce que je crois me souvenir que le livre est interdit par la censure.
Oui, mais cela fait alors fort longtemps. Les morts ont changé.
Et puis, l'écrivain ne voudra peut-être pas, n'acceptera peut-être pas. C'est avec lui que vous devez traiter.
Où puis-je le contacter ?
Je vais voir.
Il sonne. On frappe à la porte.
Entrez !
C'est la jeune fille de tout à l'heure.
Il faut me trouver les coordonnées de cet auteur.
Il lui donne le livre. Et elle sort.
Faire un film de cette histoire, ça ne va pas être facile. Il me semble me souvenir que le livre est assez chaud.
On frappe à la porte.
C'est la jeune fille qui entre.
Elle a le livre et une adresse sur un bout de papier et numéro de téléphone. Elle donne le livre et le papier à son patron, puis ressort de la pièce.
André donne le livre et le papier à Nicolas.
Bon courage, monsieur.
Merci.
Et il s'en va.
Arrivé chez lui, Nicolas fait le numéro de l'écrivain.
Allô ? Je suis bien chez monsieur Champier ?
Oui, c'est pourquoi ?
Monsieur, je m'appelle Nicolas Scraff et je suis cinéaste. J'ai lu par hasard le livre que vous aviez écrit.
Comment ? Quel livre ?
Celui que vous aviez écrit à l'âge de 17 ans.
Mais ce livre est interdit.
Oui, je sais, mais je l'ai trouvé par hasard chez un bouquiniste. Je l'ai lu et veux en faire un film.
Non, monsieur.
Et pourquoi ?
Parce que je ne veux pas que l'on abîme mon œuvre.
Monsieur, je vous jure que je resterai fidèle à votre livre. Laissez-moi une chance. Donnons-nous rendez-vous.
Vous ne pouvez pas me refuser ça, entre artistes.
Artistes, vous êtes cinéaste.
Bon, bien, mais dans un endroit neutre.
Je connais un petit jardin près de l'observatoire, au numéro 19.
Il reste constamment ouvert, même la nuit.
Je vous donne rendez-vous à 22h30.
Je ne veux pas être vu.
Je suis fatigué de tout ça et suis si vieux.
Bien, je viendrai demain soir. Au revoir, monsieur.
Nicolas, le lendemain soir, se rend à ce jardin qui se trouve au fond d'une cour d'immeuble.
un jardin sombre avec de grands arbres centenaires. Là, il attend devant le portail. Il y fait noir à part la lumière de quelques rares réverbères. Ça a un côté lugubre. Voit arriver vers lui une ombre noire qui porte un manteau et un chapeau à large bord.
Vous êtes Monsieur Scraff ?
Oui, et vous, Monsieur Janvier ?
Oui, marchons pour parler.
Ils entrent dans le parc et suivent l'allée qui s'enfonce dans la nuit. On entend le bruit du vent dans les arbres. Cela se dit qu'on se croirait en dehors de Paris. Loin, très loin de Paris. Ça a un côté lugubre. Janvier lui dit, pardonnez-moi de vous avoir donné rendez-vous ici, à cette heure. Mais je ne veux pas que l'on me reconnaisse. Pour moi, cette histoire, c'est fini. J'ai changé de vie. Je comprends. Je veux rester en dehors de tout ceci. J'avais écrit un livre admirable. C'est dommage qu'il reste dans l'anonymat. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que de temps en temps, une personne comme vous le lise et l'aime. Ce qui compte surtout, c'est qu'il ait été écrit. Pourquoi ne pas en faire un film ? Non, parce que vous ne pourrez pas ressentir et faire que ce que je voyais. Non, c'est non. Mais je vous promets que je ne vous trahirai pas. Aucune scène, en plus ou en moins. Tout y sera. Et si vous voulez, vous pourrez assister au tournage. Dire ce que vous avez, ce que vous voulez. Non. Parce que malgré vous, vous allez y mettre des choses à vous. Vous ne pouvez pas faire autrement, puisque vous êtes auteur. Je vous jure que non. Non, c'est impossible. Écoutez, je vais écrire un scénario et je vous le ferai lire. Ce sera non. Je ferai malgré tout et vous le ferez lire, comme vous voudrez. Et il s'en retourne. Nicolas, intrigué, aimerait voir le visage de cet homme qui a écrit un si beau roman. Mais le manque de lumière le lui empêche. À la sortie du parc, il se quitte. Nicolas, pendant plusieurs jours, s'enferme chez lui. Il écrit le scénario. Il fait bien attention de mettre toutes les scènes et de ne rien changer. Après avoir lu ce qu'il a fait, plutôt deux fois qu'une, il envoie à l'écrivain. 15 jours plus tard, il lui téléphone.
Allô, je suis Nicolas Scraff. Je m'excuse de vous déranger, mais j'aimerais savoir si vous avez lu mon scénario.
Oui.
Alors,
non.
Il ne vous a pas plu ? Il y a une chose qui vous a déplu ? Dites-le-moi. Je pourrais rectifier.
Non.
Mais pourquoi ?
Parce que c'est non.
Nicolas est effondré. C'est un sujet en or, le plus beau qu'il n'a jamais eu.
Si le film ne se fait pas, votre livre... Si ce film se fait, votre livre pourra être réédité.
Non.
Si vous changez d'avis, prévenez-moi. Au revoir, Monsieur Janvier.
Au revoir.
Elle cherche une autre histoire, mais à chaque fois, il ne pense qu'à l'autre et n'écrit que des adaptations de ce livre qu'il a tant aimé. Je ne dois plus penser à ce livre. Il se met à sa bibliothèque, derrière ses livres. Nicolas se pose des questions. Est-ce que ma vie n'est pas mangée par l'art? Est-ce que cela ne m'empêche pas de vivre? Mais qu'est-ce que la vraie vie? Est-ce que la vraie vie vaut la peine d'être vécue? Benoît à Lyon est dans son salon et parle à un de ses amis, un homme grand, fort, cheveux gris rares. C'est Charles Grosnebois. Il lui dit
« La gauche brandit la menace du fascisme et du nazisme depuis plus de 30 ans. Et la droite, la peur du surimpôt et du chômage. Les temps français sont pris entre ces deux-là. La guerre a duré 5 ans et depuis 20 ans, on nous en rasasse d'histoire. Et l'on traite même ceux qui n'étaient pas nés à cette époque de coupables et de collabos. Car pour la gauche, tout le monde qui ne vote pas et ne pense pas comme elle est collabo fasciste, etc. Est-ce juste de faire payer, d'accuser les enfants, petits-enfants, d'une guerre qui pour la plupart, leurs parents n'ont pas voulu ?
Nicolas reste enfermé dans sa chambre à chercher un sujet de film. Mais quoi ? Guillaume reçoit un appel téléphonique.
Monsieur Guillaume ?
Oui,
je m'appelle Rudolf Casablanca. Je suis producteur de la Columbia et j'ai un film à vous proposer.
Je vous remercie, monsieur.
C'est un film sur la guerre de sécession. Est-ce que cela vous intéresse?
Oui, bien sûr, monsieur.
Bien. Nous pourrions nous voir, disons, demain soir à 20h30, 35 rue du Marais. Cela vous convient-il?
Oui, très bien, monsieur.
Parfait. Alors à demain. C'est un ancien hôtel particulier. J'ai installé mes bureaux, vous verrez. Je vous fais venir à cette heure tardive, c'est pour que nous puissions parler tranquillement, en dînant tête à tête.
Je vous remercie, monsieur. Le lendemain, il va au bureau. C'est une vieille maison du XVIIIe siècle. Il sonne à la porte.
La porte s'ouvre. Un domestique grand et fort. Je suis attendu, je m'appelle Guillaume. Oui, monsieur, entrez. Guillaume entre.
La porte s'est refermée derrière lui.
Veuillez me suivre, monsieur.
Le maître d'hôtel le mène à l'étage. Un grand escalier de pierre, très joli. Il se trouve à l'intérieur de l'immeuble. C'est clair, net. Il suit un long couloir.
Puis, l'homme ouvre une porte. Entrez, monsieur. Guillaume entre. C'est un salon Louis XV. Une autre porte en face s'ouvre. C'est une femme habillée d'une robe noire, brune, très belle. Elle dit «
Bonjour monsieur, vous vouliez voir le producteur, qui vous attendait. Mais en réalité, c'est moi qui vous ai fait venir. Et pourquoi? C'est pour vous dire de ne plus voir Nicolas ni sa famille. Et pourquoi? Parce que il va vous venir votre perte. Mais quelle perte? Et pourquoi? Ce sont des criminels. Il y a dans la famille une personne à sacrifier. Qui est-ce? Celui qui ne sait rien. Mais je ne vous dirai rien de plus. Vous ne devez plus voir Nicolas. Et c'est tout. Elle sort de la pièce. Nicolas reste quelques secondes à réfléchir. Et lui sort de la pièce, mais par la porte que la femme a prise. Et là, il ne sait plus s'orienter.
Il n'arrive pas à trouver les escaliers. Il tourne en rond.
Il essaie d'ouvrir les portes. Elles sont toutes fermées.
Il panique. Il crie. Au secours! Au secours! Il va dans tous les sens.
Au bout d'un moment, tout tourne autour de lui.
Tombe à terre et perd connaissance.
Puis,
il reprend conscience.
Il a froid.
Ouvre les yeux. Vois le ciel étoilé. Un bout d'eau. Deux villes. Retourne la tête.
Voit le visage d'un vieil homme qui semblait un clodo et barbe en moussage grise.
L'homme lui dit:
eh bien toi, l'on peut dire que tu en tenais une. Il se lève difficilement et qui voit qu'il est sous un pont. Il demande à l'homme:
comment je fais pour venir jusqu'ici?
J'en sais rien. Mon petit, tu étais déjà là quand je suis arrivé. Où suis-je? Sur les quais de la Seine. Pour le centre de Paris. Tout droit à droite.
Merci. Et il se met en route, en longeant les quais.
Après 15 minutes de marche, il arrive devant une station de métro. Arrivé chez Nicolas, qui est déjà couché, il se couche et lui raconte ce qui est arrivé. Nicolas lui dit:
tu étais peut-être ivre ou tu as rêvé?
Guillaume, furieux, lui répond:
moi, ivre? J'aurais jamais pu me souvenir de tout ça.
De toute façon, je suis clair. Mes esprits sont clairs. Et puis, je ne sens pas l'alcool.
Nicolas lui dit: pardonne-moi, tu as raison. Demain, nous irons au commissariat.
Le lendemain, chez le commissaire, un grand homme sec, cheveux châtains, costume gris, après les avoir écoutés, leur dit
« Votre histoire est abracadabrante. »
Guillaume lui dit
« Mais je vous assure, monsieur le commissaire. »
« Bien, alors, allons à cet hôtel. »
Ils y vont et voient que l'immeuble, les entrées, sont condamnées pour démolition.
Mais je vous assure que je suis entré ici.
Vous n'êtes pas trompé par hasard?
Non.
Je dois tout de même faire le tour du quartier.
C'est ce qu'ils font et Guillaume reste sur ce qu'il a dit. On classe l'affaire par manque d'informations. Mais Guillaume reste inquiet, surtout qu'il repense à ce que lui a dit la dame en noir sur la famille Scraff. La nuit, il fait des cauchemars, rêve à ce qu'il a vécu.
Le matin, en se réveillant, il dit à Nicolas, tout fais attention à toi, un danger te menace.
Nicolas lui répond, ne fais pas de soucis, c'est de la blague tout ça. Et la vie reprend son cours.
Les jours passent.
Jusqu'au jour où Nicolas voit près de son immeuble une dame en noir sortir d'une grande voiture noire. Il y a un chauffeur aussi. Il entre chez lui inquiet. Il a beau se dire que des femmes qui s'habillent en noir, il y en a des tas. Il y en a peut-être des milliers. Il en parle à Guillaume
et demande comment était la sienne. Et se dit que celle qu'il vient de voir
est la même que celle de Guillaume. Alors, il se pose des questions.
Pourquoi me veut-elle du mal?
Que veut-elle?
Il écrit à ses parents
pour leur dire de se tenir sur leur garde. Les parents ne le prennent pas au sérieux et ne veulent leur pas montrer leur inquiétude. Puis, la vie continue. Il doit trouver un film à faire. Il cherche une idée. Il décide de faire une adaptation des Garçons de Monterland.
Un grand film de 4 heures. Une première partie, le collège. Une deuxième, le bal. Et une troisième, les dernières années du prêtre.
Il fait une adaptation en mettant tout ce qu'il y a dans le roman, sauf les choses purement littéraires, comme les fêtes religieuses, etc. Et tout ce qui n'a rien à voir avec l'action. Mais par contre, il a introduit dans le scénario la ville dont le prince est un enfant. Une fois que le scénario est fini, le scénario a appuyé sur les sentiments des personnages en minimisant le côté des enfants qui veulent éduquer les autres.
Le film raconte avant tout une grande histoire d'amour qui a été la seule histoire d'amour qu'a vécu Monterland. Pour le tournage, cela doit se tourner dans le vieux quartier bourgeois de Paris et en y mettant ce qu'il y avait à cette époque. L'hôtel de la mer se trouvera dans le Marais. La fin du film se terminera dans un petit village normand. Maintenant, il va falloir trouver des acteurs. Là, ce n'est pas facile, car comme pour le Nabab, il faudra même pour les enfants une élégance, une noblesse que la jeunesse actuelle n'a plus. Les jeunes et leurs baskets font marcher un peu en canard et d'une façon cool. Aucun jeune ne serait capable de se mouvoir, de parler comme des jeunes devant la guerre de 14. Le moule s'est cassé. On peut naître élégant, mais si vous vivez au milieu de gens cool, vous perdez vos qualités premières. Nicolas réussit à trouver tout de même des enfants au physique et visage intéressant. Il leur fait donner des leçons de maintien et de savoir-vivre de l'époque. Pour ce qui est des adultes, c'est la même chose. Pour le supérieur et l'abbé de Prat, il aurait aimé avoir les deux acteurs qui ont joué la première fois la pièce. Cette version était la plus belle, la plus vraie, la mieux jouée. Donc, là aussi, les acteurs devront apprendre à se tenir et à avoir les choses comme dans le contexte de l'époque. La discipline était normale, les prêtres faisaient partie de la vie de tous les jours, de Français moyens ou non. Après avoir trouvé les comédiens, il faut l'argent. La Gaumont coproduit le film. Le temps passe. Une fois que les acteurs sont prêts, il ne reste plus qu'à tourner. Guillaume ne jouera pas. Il n'y a pas de rôle pour lui, car il est trop vieux pour jouer un collégien et pas assez pour jouer un prêtre. Il restera près de Nicolas pour des menues choses. Le tournage se passe bien. Filmé en 70 mm, vrai, pas du 35 gonflé à la copie. Nicolas est très minutieux avec les acteurs. Il veut qu'ils jouent vrai et pas d'une façon caricaturale et veut que l'on sente les sentiments vrais. Il est très sévère aussi par les gestes, la façon de marcher. Pour les figurants, c'est la même chose. Les figurants sont surveillés comme des acteurs. Ils doivent se comporter comme au début du siècle, faire attention à leurs gestes. L'on surveille aussi les cheveux. Pas de coupe moderne, ni pour les acteurs, ni pour les figurants. Nicolas n'a pas voulu tourner dans un pays de l'Est de l'Europe. C'est peut-être moins cher, mais leur façon de travailler n'est pas la même. Et tous les films faits là-bas ont été plus ou moins ratés. Même les figurants ne savent pas faire leur travail. Ils regardent tous la caméra et marchent tous dans le même sens. Le film se fait. Après le générique, qui se fait sur le collège, les élèves qui arrivent, l'action commencera. Puis, pour couper en deux le film, il y aura un rideau qui fermera et s'ouvrira. Les scènes de la mer sont faites dans un esprit incestueux, amoureux, féminine jusqu'au bout des ongles. La photographie doit avoir des couleurs pastel très douces. Mais ne pas oublier que le Paris de cette époque devait être gris à cause du charbon et ne pas oublier le pavé humide le matin, mais dans une lumière générale, comme dans un brouillard, comme si c'était un rêve. D'ailleurs, c'est un souvenir sublimé, comme un rêve. Sublimé, comme rêvé. Les jours passent. Le film est fini, tout s'est bien passé, long mais bien. Chacun a compris qu'en qu'on reconstituait une époque avec des décors, des costumes, mais aussi d'une façon de se mouvoir et de voir les choses. Le film est sélectionné pour Cannes. Nicolas ne voulait pas, car si les critiques sont mauvaises, cela risque de ruiner sa carrière. Et pas qu'en France, mais dans le monde entier. Le film est très bien reçu, même trop. Il a eu la Palme d'Or spéciale grand public. Le public va le voir, mais très vite s'en désintéresse. Il n'aime plus les histoires et costumes. Mais le film a malgré tout fait du bénéfice. Nicolas se dit qu'il deviendra un grand classique. Après plusieurs longs mois de travail, Nicolas décide de passer quelques jours chez ses parents. Il y va avec Guillaume. Lui et Guillaume sont reçus normalement. Et leur chambre est prête. C'est devenu normal et même les domestiques ne font plus attention à ça. On dit tout naturellement Nicolas et Guillaume. Et comme on le dit naturellement, devant les autres finissent par trouver naturel eux aussi. Donc c'est devenu normal à Lyon que Nicolas soit avec Guillaume. On n'en parle même plus, tellement c'est devenu normal. Un soir, après le dîner, dans le salon, où toute la famille est réunie, Nicolas parle de la dame en noir. Denis lui dit « Moi aussi, j'ai eu une aventure presque pareille. » Le père leur dit « Ça doit être une mauvaise farce. » Mais, une fois que tout le monde est couché, Nicolas va frapper à la chambre de Denis.
Entrez,
Nicolas.
Denis est déjà au lit. Il s'approche de lui. Je dérange ? Non, je ne dormais pas.
Nicolas s'approche et s'assoit sur le rebord du lit.
Et lui dit, je pense toujours à cette femme en noir. Denis lui parle de la lettre qu'il a trouvée dans le bureau de père et lui dit, père doit cacher quelque chose. Notre famille doit avoir un secret. Mais lequel ? Nicolas lui dit, faudra parler à mère et voir dans le bureau de père.
Matin, une fois que père est parti, les deux frères sont allés voir leur mère au salon.
Ils lui disent ce qu'ils savent. Nicolas demande, que savez-vous de cette histoire, mère? Y a-t-il un secret dans la famille? Quelle est cette broche? La mère lui demande,
comment avez-vous su tout ça?
Denis lui dit, dans la lettre que j'ai trouvée,
dans le bureau de père et lui dit « Je ne comprends rien tout ça. Tu as dû mal comprendre. »«
Ça n'a rien à voir avec votre histoire. La lettre doit parler d'autre chose. La famille n'a aucun mystère. Tout le monde connaît les origines modestes de la famille et le rude travail que nous avons fait pour arriver à avoir une situation. » Les deux frères embrassent leur mère. Nicolas lui dit, « Ils ne penseront plus à tout ça. » Mais Denis et Nicolas, en cachette de leur mère, vont dans le bureau de leur père.
Pour voir s'ils ne trouvent pas quelque chose. Ils fouillent minutieusement le bureau. La bibliothèque. Et trouve derrière un tableau un coffre-fort. Mais
nous n'avons ni code ni clé. On ne peut rien faire.
Ils sortent du bureau en n'ayant rien trouvé. Nicolas dit, allons dans le grenier.
Il cherche. Et trouve dans une malle une photographie en noir et blanc. Il se trouve une femme, de Neddy. Elle ressemble à la dame en noir. Tu en es sûr? Oui, je crois. Nicolas la prend
pour la montrer à Guillaume, qui lui aussi a vu la femme en noir.
Dans leur chambre, il la lui montre. Guillaume la regarde bien et lui dit « C'est elle, mais ça ne peut pas être elle. » En tout cas, ça lui ressemble. Cola lui dit. Alors qui est-elle? De quand date la photo? Où a-t-elle été prise? La photo représente une femme assise dans un fauteuil en osier dans un parc. La personne a une jupe noire et un chemisier blanc. Cola regarde bien la photo et dit. À Paris, j'affilmerai avec un zoom. Nous verrons peut-être quelque chose.
Arrivé à Paris, Nicolas filme la photographie avec le zoom. Il agrandit les parties de la photo qu'il veut voir et il regarde sur un écran. Là, il voit que la personne porte une broche sur son chemisier. Peut-être la broche dont parle la lettre. En zoomant de plus près le visage, Nicolas a une drôle d'impression. Il semble que la personne a des yeux d'une morte. Elle a le corps légèrement avachi et semble avoir le regard figé. En regardant bien, et le corps lui paraît légèrement penché en avant. Une de ses mains posée sur sa poitrine, comme une personne qui aurait eu une douleur à la poitrine. Face à elle, en bas de la photo, à peine visible, comme un tuyau noir. Après avoir bien regardé la femme, il regarde le décor, les arbres, la broussaille, un peu de mur qui est le bout d'une façade, avec coupé en deux, en longueur, une décoration d'une moulure.
mais le bout de mur est juste visible, caché dans les arbres, dans le coin de la photo, et c'est flou. Après avoir regardé et regardé la photo, Nicolas semble voir dans les broussailles un visage ou un blanc qui semble regarder la photo horrifié. Est-ce un visage ou une tache? C'est difficile à voir. Il en parle à Guillaume et lui montre toutes ses découvertes. Guillaume lui dit, il faut savoir où a été prise cette photo. Nicolas lui dit, je vais faire avec cette photo un agrandissement très bien fait. Il envoyait à Denis pour qu'il puisse se renseigner. Denis reçoit la photographie avec la lettre lui disant ce qu'il a vu et lui demandant de faire ses recherches de son côté. Denis commence son enquête. Il va au grenier.
Et là, il ouvre une vieille malle où se trouvent tous les photos
et le courrier de la famille. Il cherche. Il cherche dans les vieilles lettres. Rien. Tout à coup, la porte s'est ouverte.
Que fais-tu?
Je fais une recherche sur une personne qu'on a trouvée par hasard sur une photo dans le grenier, qui ressemble étrangement à la femme en noir. Le père va vers lui.
Donne-moi cette photo.
Denis la lui tend. Le père la déchire.
Ce n'est rien. Une vieille connaissance de ta grand-mère. Ton frère et toi, vous faites des histoires pour rien. Tu ferais mieux de réviser tes cours.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, film intérieur, dont c'était la 38e partie. Production, mise en scène, Ginette Jean-Pierre, enregistrement CVRP.